Figaro Radio. Le Buzz TV. Nicolas Voller et Mathilde Seffert.
Figaro Radio.
Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Mag. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro TV, Île-de-France, Figaro Live et Figaro Radio. Ça va Mathilde ?
Ça va, super, oui.
Oh, notre invité du jour, vous allez la découvrir. C'est un rayon de soleil que nous sommes ravis de recevoir dans cette grisaille ambiante de l'hiver, là où elle passe la mauvaise humeur. Trépasse, capable de vous mettre un sourire sur le visage en un instant. Elle s'apprête à porter sa plus belle tenue pour aller chanter, danser et s'ambiancer lors d'un prime time. Pas tout à fait comme les autres. Bonjour Elodie Guichin.
Salut Nicole. Bonjour Mathilde.
Ouais,
ça
super.
Va super.
Vous êtes déjà dans l'ambiance pour demain soir sur M6, la grande soirée du Top 50 qui va fêter sa soirée anniversaire. Vous serez avec Jérôme Anthony, car oui, le Top 50 fête ses 40
déjà.
Ans. Il a été lancé en 84 sur Canal+. C'était en même temps que la création de la chaîne et c'était 4 ans après votre naissance. Vous aviez 4 ans.
C'est ça, mais du coup,
exactement.
On a grandi tous avec le
Donc,
Top 50.
Vous vous souvenez absolument, quand vous aviez 4 ans, qui était premier du Top 50 ?
À ce moment-là précis, absolument
vous
pas.
Vous ne regardiez pas ?
Mais je regardais, mais pas en 84 pour le premier Top 50. On est suivi des numéros 1 de Mylène Farmer à Michael, mais c'est ça,
c'était
on attendait.
C'était Peter et Sloan, Besoin de rien, envie de toi.
Besoin de rien, envie de toi.
Et du coup, vous regardiez alors, pendant ensuite, votre jeunesse, votre adolescence, c'est des souvenirs que vous avez, le Top 50 ?
Plein de souvenirs, mais j'imagine que vous aussi, que tout le monde en a. Moi, les premiers souvenirs, enfin les plus forts en tout cas, je crois que j'attendais le classement des boys bands dans le top 50.
C'était
la folie des boys bands.
Part to be free,
Michael Jackson, j'étais fan, Céline Dion. Et puis j'attendais en fait de voir les clips parce qu'en fait c'était une vraie liberté créative, le top 50, enfin cette époque en tout cas musicale.
Ah, les clips étaient incroyables.
Tu vois, moi, pour moi, l'image, à chaque fois, c'est vraiment dans la brume, la nana avec le voile sur un cheval, tu vois, le truc hyper glamour.
À la Mylène Farmer, c'était des films quasiment.
Films. Et les clips à la Mylène Farmer et puis le côté déjanté, des couleurs, de la mode des années 80, bah, les divas pop aussi, et un peu trop diva, mais c'est tout ça le top 50, ça faisait rêver, et moi j'adorais regarder les clips.
Voilà de quoi vous mettre l'eau à la bouche hein, pour cette soirée de demain. On va poursuivre cet entretien dans un instant avec Elodie Guichin. Vous allez tout savoir de cette soirée anniversaire exceptionnelle, ce sera juste après les news médias de Mathilde Seiffert. On commence, Mathilde, par la soirée des Césars. Hein, c'était vendredi, qui a été un petit peu perturbée.
Oui, alors c'est Jamel Debbouze qui en a payé les pots cassés. L'humoriste était chargé de remettre un César d'honneur à Agnès Jaoui. Et si Jamel Debbouze s'est lancé dans un bel hommage à, comme il a tenu le préciser, une personne qu'il aime profondément, son discours a été interrompu par une voix dans le public. Cette intervention totalement inaudible n'est pas passée totalement inaperçue.
C'est clair.
Je vous propose de regarder la réaction de Jamel.
Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Merci infiniment de me donner le privilège de remettre ce César d'honneur à une personne que j'aime profondément. Ta gueule. T'es un cousin à Juliette Binoche ou quoi, toi ?
Oui, alors c'était une référence à l'intervention de Juliette Binoche lors du discours d'ouverture des Césars de l'an passé, également mené par Jamel Debbouze. Il se moquait alors du cinéma d'auteur et du peu d'entrée au box-office.
Est-ce qu'un jour, le métier d'actrice vous a tenté, Elodie ? Est-ce qu'on vous a déjà proposé de faire des petits rôles ? Il y a quelques miss hein, qui s'y sont risquées. Laurie Tillman récemment sur TF1.
Je pense que je suis faite pour ça. Mais alors, pas du tout.
Non, pas du
tout. C'est un métier qui fait rêver. Moi aussi, ça met des paillettes dans les yeux d'imaginer ce métier, de regarder d'ailleurs... Bon, pas vraiment la cérémonie des Césars, mais certains films et certains parcours d'acteurs. Mais en fait, moi, je n'arrive pas à jouer la comédie. Mais même chez moi, si je mens, tout le monde
Vous
le
êtes
voit.
Trop naturel,
en fait, je ne peux pas être autrement que spontané. Mais c'est vrai.
C'est vrai.
C'est un défaut, parce que dans notre métier, des fois, il fait bon d'être un peu hypocrite. Mais je ne sais pas.
Ou un peu faux, effectivement.
Voilà.
On continue ces infos médias, Mathilde, avec des critiques à l'encontre d'une participante de Danse avec les Stars.
Oui, et c'est Kayona, la première drag queen à participer à Danse avec les Stars, qui en est la cible.
Avec Maxime Doremez.
Exactement. Elle a effectué sa première danse sur le parquet ce vendredi, du coup, au bras de Maxime. Et elle a bluffé tout le monde. Sa prestation a suscité beaucoup de commentaires flatteurs, mais aussi quelques critiques qui, comble de l'ironie, jugent son niveau trop haut.
Ah oui, en fait, en réalité, elle est trop forte, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Elle a réagi sur ses réseaux en affirmant, je cite, « Je ne vais pas m'excuser d'avoir du rythme et de la motivation pour apprendre. » À l'issue des deux premiers primes, Kayona est première du classement avec 38 points.
Ouais, en plus, Maxime Remes, c'est un des meilleurs. Hein. Vous aviez participé à l'émission, c'était en 2017, vous avez fini quatrième au pied du podium. C'était quand même un
beau miraculeux.
Parcours.
Moi, vu le niveau de danse de
vous
base...
Vous en gardez un bon souvenir ou pas de danse avec les stars? Il n'y a pas eu de haine comme ça sur les réseaux à ce moment-là, sur vous ou quoi que ce soit, parce que...
J'ai cette chance, globalement, en fait, que les réseaux soient vraiment moins un lieu d'échange et de bienveillance. On arrive vraiment à discuter, comme dans la vraie vie, c'est le reflet de la vraie vie. Je pense que les réseaux peuvent être utiles, être le reflet de la vraie vie. Et Danse avec les stars, c'était super bien passé, parce que, justement, j'étais encouragée. Je partais vraiment d'un niveau tellement catastrophique que je faisais pitié aux gens qui ont envie de me soutenir.
Vous étiez avec Christian Miette, c'est ça.
J'étais avec Christian Miette, que j'embrasse très fort. Mais pour moi, c'est ça le concept de cette émission. Il faudrait que tout le monde, qu'il n'y ait pas de véritable danseur à la base. Ou alors, s'il y en a, c'est une autre émission avec des danseurs. Ouais. Le but, c'est justement la valeur du travail, la persévérance, de progresser. C'est sûr que quand tu danses, et moi c'était le cas avec Lenny Kim ou Agustin Galiana, que j'embrasse très fort, mais qui avait un niveau de danse meilleur sur le premier prime qu'à la fin.
Ou Matt Pokora, Chaim, il savait déjà danser, c'est clair. On termine avec le chiffre du jour, Mathilde, c'est le 2 aujourd'hui.
Oui, et alors c'est le nombre d'invitations que Teddy Riner pourra obtenir pour les Jeux Olympiques de Paris.
C'est pas terrible, hein. Deux invites.
Voilà, alors les frais.
Du coup, on comprend pourquoi nous, on en a pas.
Ouais, c'est clair.
C'est le cordonnier le moins bien chaussé. Le judoka participera donc à la compétition, mais ne pourra pas inviter toute sa famille à suivre ses exploits. Il a révélé cette injustice dans quelle époque ce week-end, et il expliquait, malgré le champion que je suis et tout ce que j'ai ramené à la fédération.
Il a que deux places. Deux fois champion olympique, quand même.
T'as dit, si ces deux places ne te conviennent pas, je peux les prendre.
Vous avez vos places pour les JO ou
non,
pas?
Non, j'aurais même pas de place.
Non.
Mais j'adorerais. Mon rêve, vous savez quoi, vraiment?
C'est quoi?
C'est, je cours un peu, mon rêve aurait été de faire le marathon de Paris des JO. Enfin, le marathon JO.
Bien sûr,
je me dis, c'est pas le marathon de Paris. Ouais. Mais je rêve d'être marathonienne une fois dans ma vie, même si je finis en rampant. Et je pense que sur les JO de Paris, j'aurais rêvé faire ça.
Vous allez suivre, en tout cas.
Oui, je vais regarder, bien sûr.
Terminé pour les news médias.
Terminé.
Il y en aura d'autres. Évidemment, dès demain, on passe au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Élodie Gossuin. Demain soir, vous allez pouvoir, chers amis, ressortir vos plus beaux jeans troués, vos coupes mulets, vos hauts flashy, car les années 80 seront à l'honneur avec la soirée anniversaire des 40 ans du Top 50 sur M6, une émission que vous animerez, Elodie, avec Jérôme Anthony.
Exactement.
Alors, je sais qu'en général, les anniversaires, c'est un peu les surprises, on garde, mais j'aimerais quand même bien savoir ce qu'on va avoir dans cette émission. Il y a une petite bande-annonce, là, qui nous donne quand même quelques indices sur la soirée.
Absolument. Vous allez voir que, les plus grands chanteurs reconnus du Top 50 seront là aussi, pour réinterpréter leur titre numéro 1. De belles surprises aussi avec des artistes d'aujourd'hui qui viennent et qui parlent aussi de ce que représente le Top 50.
Ouais.
C'est vrai que je pense par exemple à Mika, Vita, Kinvé et tant d'autres. Et puis moi, d'avoir les stars 80, quand je dis les stars 80, sens large du terme,
mais qui sont là,
Jeanne Masse, de Jeanne Masse à Michael Jones, à Emile et Images, Zouk Machine.
Les principaux seront là, quoi, en tout cas.
Ouais. Et c'est une grande fête. On a la chance de faire cette fête à Épernay. En plus, le public était incroyable. Je crois que ça nous a tous bercés, qu'on a surtout besoin de ça aujourd'hui. On parlait de la grisaille ambiante, mais... Enfin voilà, moi, juste de donner le sourire, d'avoir envie de bouger, d'être réunis, que ça fédère les gens, d'avoir juste un peu la patate et un peu de paillettes, c'est vrai qu'on en a bien besoin. C'est exactement ça, cette soirée. C'est vraiment cool.
Et alors, comment ça s'organise? Il y a un classement qui est mis en place durant la soirée?
Non, il n'y a pas de classement parce qu'on ne revient pas sur les classements actuels, mais sur tous les numéros 1, avec quand même certains classements liés, par exemple, aux bandes originales, donc sorties du film. Donc on va revoir les plus grands Adele, ceux de James Bond, de Titanic,
et Céline
Dion, La Boom, etc. Et puis tous les records, par exemple le record qu'avait établi Jordi. Je crois qu'il avait 3 ou 4 ans à l'époque du Top 50. Les ovnis aussi.
Émile Images était resté, je crois, 14 semaines. Les
semaines numéro 1, exactement. D'ailleurs, ils seront là. C'est vraiment de revenir sur les images d'archives, les plus grands numéros 1, de les faire revivre sur scène avec les plus grands artistes.
Voilà. Vous avez eu tout le monde quasiment? Certains vous ont dit non ou pas? Il y en a avec qui que vous regrettez de ne pas avoir eu?
Non, je crois qu'on a eu tout le monde. C'est horrible parce que quand tu penses à ceux qu'on n'a pas eu, c'est parce qu'ils malheureusement ils ne sont plus de ce monde.
Oui, oui, bah, bien sûr, forcément, il y en a quelques-uns voilà. qui ne sont plus là. Ouais.
Mais non, tout le monde a répondu présent. J'ai même eu cette chance de pouvoir rencontrer et d'avoir notre rock voisine qui était là. Qui était ouais. fan quand j'étais ado.
Ah, ouais, d'accord, ouais, un petit crush de, ouais, de jeunesse,
c'est ça. Une petite photo et tout ça.
Très bien,
je vois, je vois. Il m'a chanté seul sur le sable et tout.
Ouais, les yeux dans l'eau.
Et alors, il y aura une séquence intitulée Top Bots. Qu'est-ce qu'on va y retrouver
En fait, c'est tous les sous. Alors, plein de délires. Alors, les artistes qui viennent pour délirer et parler justement de leurs souvenirs marquants du top 50. Peut-être
ce sont des artistes actuels qui n'ont pas forcément été au top 50
exactement.
À l'époque.
Exactement. Hein, tous les artistes, en tout cas, sont dans cette top box et nous font le lien entre le top 50, peut-être leur carrière, les passerelles, les rêves qui ont bercé leur propre enfance. Plein de petites surprises aussi.
Ouais, ils avouent des plaisirs coupables sur certaines chansons.
Ouais, je pense que ça vaut le coup de regarder, vraiment. Vous allez apprendre du lourd. Ouais.
Alors, on le sait, évidemment, les chansons des années du top 50 ont été remises au goût du jour il y a une quinzaine d'années avec la géniale idée de Star 80 et de cette tournée mythique et ensuite devenue un film. Par la suite, vous surfez encore, on a l'impression qu'on surfe encore sur cette nostalgie. Il y avait un truc dans ces années qu'on n'a plus aujourd'hui, Élodie.
Je suis d'accord. La preuve, c'est que mes grands viennent de fêter leurs 16 ans. Le thème de leur soirée avec leurs potes, c'était années 80, quoi.
Ah, c'est années 80.
Ils étaient là, les guettes, le fluo, le machin. J'ai entendu que du Jeanne-Masse.
Exactement.
Et du début de soirée à fond. En fait, ça fait du bien. Je trouve que c'est un côté très réconfortant. Et puis, c'est une musique qui donne le sourire. Ça fait du bien, en fait. Tout le monde connaît les paroles par cœur, donc ça nous rassemble aussi. Et moi, ça me rappelle... Chez moi, on fait la chouille. Les grandes fêtes, c'est la chouille. Ça me rappelle les plus grandes chouilles familiales aussi. Et je crois que pour tout le monde, c'est à la fois beaucoup de nostalgie, mais en même temps... Bah ça fait pétiller les yeux, quoi. Et ça nous fait du bien. Si t'es en soirée, maman dit, tu mets un peu de musique années 80, eh ben écoute, t'as envie de
c'était
bouger.
C'était mieux avant, la musique, c'est ça
c'était mieux. Non, je pense pas. Mais en tout cas, elle avait cette force de fédérer énormément.
Ouais.
Et il y a ce côté-là aujourd'hui. Moi, par exemple, quand je pense à d'autres divertissements, justement, pour le groupe M6 qu'on a tourné ou qu'on va tourner, et le phénomène pictionniste, tu sais, la chouche synchro. C'est cet effet-là, la chouche synchro. Je pense à ça, parce que c'est ce côté années 80, mais qui fait du bien.
Les karaokés que vous avez animés aussi avec Eric Antoine,
il y a eu une période où la musique, il y avait un côté, certains pouvaient taxer certaines sortes, catégories de musique comme un peu ringarde, ou pas assez classe, ou machin. Et en fait, je crois que ça, on a passé le cap. Tant que ça fait, on s'en fout, il n'y a pas de côté ringard ou pas, au contraire, c'est populaire, et populaire, c'est au sens noble du terme, et ça fait du bien, c'est tout.
Ouais. Et alors, pour la présentation, Jérôme Anthony sera à vos côtés.
Comme souvent.
Il est un peu l'homme à tout faire du groupe M6. Est-ce que pour vous, c'est un avantage ou un inconvénient de ne pas avoir une émission vraiment...
D'être identifié surtout, parce que c'est vrai que vous et Jérôme, on a l'impression que vous êtes le pendant masculin et féminin. Vous faites tout sur M6. Je vous dis, fais de la cuisine, fais vide des greniers, des vacances, du camping-car, vous faites tout, quoi.
Parce qu'en fait, on s'entend vraiment bien. Et on travaille très facilement ensemble et tout est naturel. Et effectivement, on a travaillé à nouveau ensemble et on va travailler à nouveau ensemble. Mais parce qu'on sait qu'on peut compter l'un sur l'autre. Il n'y a pas de problème d'ego, il n'y a pas de calcul de tu dis combien de mots, etc. Et on sait que ça peut être complexe en télévision. Et notamment pour une femme
qui peut vite avoir le
rôle secondaire et être en attente. Là, la connexion, elle est hyper naturelle. Et comme ça fonctionne, forcément... sur certains projets, ils vont, j'imagine que ce soit la chaîne ou les producteurs se dire, Élodie et Jérôme, on sait qu'il y aura l'humeur et que ce sera carré aussi, sans prétention aucune, mais que ce sera pro et qu'il y aura l'humeur. Donc c'est rare d'avoir un ami avec lequel tu puisses bosser. Moi, à chaque fois, je sais que je peux compter sur lui si j'ai en plus un problème, donc c'est très rassurant.
Et c'est aussi ça, force du groupe M6, pour vous, Élodie, c'est-à-dire ne pas être que dans une case de faire une chose, parce que certains animateurs font un type, Nikos fait un type d'émission particulier, ou Camille Combal, vous, on a l'impression que c'est pas le cas. Vous faites aussi bien les familles nombreuses, où vous êtes très légitime, évidemment, des camping-cars, les vacances, les karaokés, les soirées, la cuisine même. C'est quoi la prochaine étape?
Parce que depuis plusieurs années, ça remonte à il y a plus de 10 ans, je crois, maintenant, effectivement, c'était la volonté de travailler avec Sister et d'incarner les magazines familiaux. Absolument. Et de travailler, de les développer avec eux, d'avoir des idées. Je fais aussi les mix. Enfin, je travaille auprès de la production de façon générale. Et il y a eu ce lien avec l'UNICEF, dont on peut peut-être parler après, mais je suis ambassadrice de l'UNICEF depuis 10 ans. Et W9 a monté une émission spécifique pour l'UNICEF avec un appel aux dons des artistes présents qui chantaient avec des enfants, et c'était donc il y a 3 ans. Et ça s'est fait naturellement à ce moment-là de se dire, mais Élodie est ambassadrice, on fait une émission pour l'UNICEF, c'est un peu logique qu'elle soit là. Ouais. Et c'est, ça a été vraiment mon porte-bonheur parce que c'était mon premier prime de divertissement dans le groupe M6. Et c'est vrai que depuis, il y en a plein parce que je m'éclate et que je leur dis que moi, je rêve de continuer parce que ce soit le karaoké M6 sur son 31, les W9 d'or, les primes pour l'UNICEF ou demain soir le top 50, les 40 ans du top 50. Mais moi, je m'éclate tellement, mais j'adore ça, partager avec le public.
Il y a d'autres projets d'ailleurs ou pas, en cours?
Oui,
il y a des trucs. Vous discutez régulièrement avec M6 de nouvelles émissions, de nouvelles possibilités?
Il y a des choses, ouais. On a tourné la semaine dernière justement pour l'UNICEF et ce sera très vite diffusé, ce sera le 12 mars sur W9. Okay. Il y a un autre prime en cours et oui, il y a d'autres projets. Donc ouais, moi tout ce que je veux, c'est que ça se poursuive comme ça. Honnêtement, c'est pas parce que je travaille avec ce groupe que je veux faire ces louanges-là, mais ça marche vraiment, c'est très loyal et fidèle. Les gens sont vraiment, il y a une vraie loyauté et ça marche au mérite aussi. Mmh. C'est-à-dire que j'ai vraiment la sensation, des fois tu ne sais pas pourquoi en télévision, vous le savez mieux que moi, une émission peut marcher et puis on peut l'arrêter, ça marche pas, elle se poursuit, enfin tu ne sais pas exactement.
Bien sûr.
Et tu vas avoir eu l'impression d'avoir fait ton boulot et ça ne se poursuit pas. Là, il y a une vraie reconnaissance et ça c'est une valeur mais qui n'a pas de prix et donc je suis très fière vraiment d'être dans ce groupe.
Ouais. Alors, il y a 23 ans, vous avez été élue Miss France 2001.
C'est pas obligé de préciser 23 ans.
On peut pas le dire.
Elle est agréable, celle-là.
Donc vous aviez 15 ans, ça va.
Voilà.
Ça va
jeune. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous semble être dans une autre vie?
Pas du tout. Ah non, et puis je suis très fière et très reconnaissante d'avoir été Miss France. C'est un vrai conte de fées. Mmh. Et c'est marqué en gros sur mon CV. Et je crois qu'on peut avancer que quand on ne renie jamais rien de ce qu'on a fait.
De son passé, ouais.
De son passé.
Ouais.
Et Miss France, c'est... Mais évidemment, c'est un sésame et c'est un vrai conte de fées. C'est formidable. Des fois, j'ai l'impression que c'est pas moi qui l'ai vécu tellement c'était intense. Et t'oublies certaines choses, certains moments. Mais c'est incroyable. Et puis, l'histoire est belle, tu vois. J'aime beaucoup Cindy Fabre et de la retrouver là aujourd'hui, dans la société Miss France. Et puis, de croiser les Miss et d'avoir il y a une vraie sororité. Mm-hmm. Je dis pas avec tout le monde. C'est comme les grandes familles. Tu t'entends pas avec tout le monde. Ce serait vraiment utopique. Et vraiment,
oui, parce qu'on passe souvent à la grande famille des Miss. C'est pas complètement vrai, j'imagine. Il y a certains avec qui vous êtes resté proche, d'autres non.
Mais comme dans la vie, c'est la vie, quoi. Ouais, exactement. Mm. Et non, j'ai conscience que d'avoir eu cette chance a changé ma vie totalement. Mm. Totalement changé ma vie, ouais.
Alors, vous étiez présente pour Miss France 2024, pour l'hommage à Geneviève de Fontay. Mm. C'était important de marquer ce coup-là. Parce qu'il paraît, on le sait, que vous étiez sa chouchoute un peu. C'est vrai. C'est assumé, ça, Élodie.
Elle faisait partie de ma famille. Enfin, ouais. Elle fait toujours. C'était évident d'être là. Et j'ai trouvé cet hommage très sobre, très classe, très digne pour elle. C'était exactement, je pense, elle aurait dit qu'elle... Je pense qu'elle aurait préféré ne rien avoir officiellement.
Oui, mais, officiellement.
Mais je sais qu'au fond d'elle, c'est exactement, je pense, ce genre d'hommage
qu'elle aurait voulu.
C'est
exactement ce qu'elle
aurait voulu.
Ouais. Vous croyez?
C'était beau. Non, c'était très beau. C'était beau et l'histoire est belle aussi, parce qu'elle était très proche de Cindy aussi, donc l'histoire est belle.
On parlait de Cindy, un peu moins de Sylvie. On vous a beaucoup opposé toutes les deux, pro-Geneviève et anti-Geneviève, parce que Sylvie avait pris sa place, hein, on le rappelle là-dessus. C'est vrai que vous vous entendez pas avec Sylvie, enfin, c'est un peu tendu.
Ah, mais il n'y a pas de relation particulière.
Oui. Et elle a été Miss France juste après vous, en 2002.
Exactement,
vous lui avez donné votre couronne.
Ma couronne. Mais effectivement, j'ai eu cette sensation de ne pas faire partie de la famille Miss France pendant plusieurs années. Il y a eu une autre volonté. Aujourd'hui, il y a une vraie ouverture.
Quand Sylvie Tellier a pris les rênes, vous voulez dire, c'est ça, c'était une autre époque que Geneviève.
En tout cas, je pense que c'était très complexe pour elle aussi, entre sa position, celle de Geneviève. Moi, c'était juste vu de l'extérieur parce que je ne voulais pas que ce soit par opportunisme. Donc, je n'ai jamais travaillé dans la société Miss France ni au travers des Miss. Mmh. Moi, ce que je savais, que je saurais toujours, c'est que Geneviève, je l'aimais, que je devais lui être reconnaissante et que jamais ça ne changerait. Mmh. Parce que c'était grâce à elle et que cette école Geneviève de Fontenay m'avait transmis des choses et que dans la vie, on se doit d'être reconnaissant. Moi, je ne peux pas appuyer sur la tête de quelqu'un pour grimper plus haut. Et je ne dis pas ça en disant que d'autres le font. Mmh. Mais moi, j'avais ce besoin vital de rester, de savoir d'où je venais et d'être reconnaissante vis-à-vis de ça.
Et alors, cette année, F. Gilles a été élue Miss France. Sa coiffure a suscité une grande violence dans les commentaires. Mmh. Ça vous a marqué, je crois?
Ouais.
Je trouve ça marquant aujourd'hui, effectivement, que les buzz... la source soit souvent futile.
Oui, oui,
mais après, c'est ce qu'elle a revendiqué elle aussi, d'avoir une coiffure
différente. Elle en a beaucoup parlé pendant l'élection, elle l'a souligné
donc
plusieurs
forcément,
fois.
Ça a joué dans son élection, ça ne peut pas être l'atout principal, et je trouve dommage aussi de réduire Eve et cette Miss France que à sa coupe de cheveux. Je trouve que justement, elle est physiquement différente, mais si vous regardez bien, toutes les Miss France sont différentes. Mm-hmm. Je veux dire, avant moi, c'était Sonia Roland. Vous passez de Maëva Cook à Delphine Westpizer, à Malika Ménard. On est toutes foncièrement différentes. Il n'y a pas un morphotype, on n'est pas à Miss Univers. Et c'est la force de Miss France. C'est qu'on ne te demande pas tes mensurations et que tu peux avoir une femme avec des formes généreuses, une poitrine opulente, et puis après, une nana comme moi qui, à l'époque, n'avait aucune forme et rentrait dans du 32 presque. Enfin, mais c'est une force, c'est une véritable force, ça. Ouais. Donc moi, je la trouve trop bien, Evgile. Là, elle assure même les looks qu'elle sort et tout. Je pense qu'elle va durer, je lui souhaite du fond du cœur, parce qu'on sent aussi ce qui se dégage de l'intérieur et que c'est une très jolie personne.
Alors, il y a la famille des Miss, évidemment, puis il y a la vôtre aussi, votre famille. Vous avez partagé sur Instagram vos 20 ans de votre histoire d'amour avec Bertrand, votre mari, en amoureux, exactement, loin des enfants. Bon, pour une fois, vous êtes beaucoup avec eux. C'est aussi...
Ça doit arriver une fois
Bertrand,
par an, ouais,
Bertrand,
super.
Bertrand, votre famille, c'est aussi votre rock depuis 20 ans, ça, au-delà des Miss et de la famille, évidemment, cette famille-là.
Ouais, bien sûr, je suis intimement persuadée que pour avancer avec sérénité dans ce milieu... en ne perdant pas pied, en gardant la valeur du travail et tout ça, c'est clair, c'est que t'as des bonnes racines. Ouais. Mais ça vaut pour tout le monde partout.
On a construit quelque chose de solide, effectivement.
Ouais. Et même au-delà de ça, mes parents, c'est la même chose. C'est-à-dire que, tu vois, c'est pas la première fois que je le dis, mais ça me fait penser un peu au syndrome au lendemain de Miss France où je rentre chez mes parents, parce qu'on n'habite pas très loin de Paris. Où ma mère me dit, mais tu fais quoi là dans le canapé, Miss France? Tu te lèves et tu vas débarrasser la table. C'est-à-dire que tout ça...
Ça vous fait garder les pieds sur terre,
en tout cas, c'est sûr. Il n'y a pas ce côté, mes parents qui veulent devenir agents, me demander des dédicaces, ou je ne sais pas, tout ça, il y a une vraie barrière. C'est-à-dire que moi, je ne suis que leur fille, et ça me va très bien, parce qu'il n'y a pas plus important que ça pour moi, à mes yeux. Et c'est la même chose aujourd'hui, où chez moi, c'est un cocon. Même si je ne triche pas avec ma vie, et que oui, je ne veux pas cacher que j'ai 4 enfants et un mari sur les réseaux, ou en photo, etc. Parce que c'est justement, je ne veux pas mentir non plus, c'est la vie. C'est je pense que pour tout le monde, c'est important il n'y a pas plus important que d'avoir ces racines-là, quoi.
De garder ces racines. C'est aussi pour Bertrand et les enfants que vous avez arrêté les matinales radio après cette année. Il y avait une vraie lassitude physique, mentale.
Élodie. Ça me manque.
Ouais, ça vous manque un peu?
Parce que la radio, c'est magique.
Vous faites un peu les grosses têtes de temps en temps quand même, non?
Je fais une fois.
Ouais.
Non, la radio me manque parce qu'il y a une vraie proximité. Justement, le lien direct avec les gens.
C'est pas le matin qui vous manque, rassurez-moi. Le matin, 7h, 9h, c'est quand même violent.
Je continue toutes les nuits de me réveiller à 4 heures.
Ah ouais, vous avez toujours pas...
Mais bon, j'arrive à me recoucher, je
m'endors. Le radiologique est resté encore.
C'est dingue. Mais je pense effectivement que je ne retournerai jamais en matinale.
Ouais.
Parce que le plaisir, c'est tout bête, mais le plaisir d'emmener mes enfants à l'école, moi là, je le savoure depuis un an et demi, parce que je ne l'avais jamais connu. Et de me lever tous les matins, le réveil sonne, il est 7 heures, je fais « Oh là là, mais cette grasse mat de folie, comme quoi tout est relatif !» Mais le contact avec les gens me manque vraiment en radio, c'est différent. C'est pour ça que j'adore aussi le divertissement sur M6 ou W9, parce que je le vis dans des grandes salles et que je partage, et qu'en dehors du cadre de l'émission et d'un conducteur, j'ai cette liberté de partager avec les gens, même d'aller dans le public, comme dans le karaoké ou d'autres émissions. Et ça, c'est vraiment magique à vivre.
Ouais. Merci aux éditeurs de notre dernière rubrique.
C'est tout,
suivant.
Ça y est déjà.
Vendredi, nous recevions sur ce plateau Amine El-Khatmi, homme politique, ancien PS et reconverti maintenant en chroniqueur sur CNews, Sud Radio notamment. Il avait une question à vous poser, Elodie. Je vous propose de l'écouter et d'y répondre juste
J'ai
après.
J'ai peur.
Bonjour Elodie Gossuin, vous avez été conseillère régionale en Picardie, vous avez fait de la politique, donc ma question est simple, est-ce qu'on vous reverra un jour sur le champ politique?
Ah, une vraie question, pendant 10 ans quasiment, vous en avez fait, avec une petite
régional.
Interruption de conseil, voilà, exactement.
Conseil régional de Picardie.
C'est fini la politique ou pas tout à fait?
c'est fini.
Ah, vraiment?
Ouais. Ouais. J'avais vraiment en fait déjà envie de découvrir comment se déroulait un mandat, la légitimité d'en avoir un, comment les choses pouvaient avancer, les assemblées plénières, les amendements, de faire des propositions, etc. En me disant que j'avais une force différente des autres élus d'un parcours traditionnel, parce que j'avais, en tout cas sans prétention, mais la tribune médiatique parfois, ou en tout cas connaissance des médias et de la communication, quand d'autres sont plus sur des politiques régaliennes et peuvent apporter différemment. J'ai siégé dans l'opposition, ça a été très formateur, mais honnêtement, la vérité, c'est que je n'ai pas du tout cette force psychologique pour la politique.
C'est dur, hein.
J'ai une force psychologique pour le travail que je fais, pour l'abnégation, etc. Mais pas du tout pour la politique. Je me sens vraiment d'une grande fragilité. Ouais, je me suis sentie...
fragile,
ouais, trop fragile.
Ouais, c'est dur.
Ouais, très difficile. Après, en local et à l'avenir, je ne dis pas que c'est totalement fini. Dans mon village ou ailleurs, à l'avenir, pour aider.
À petite échelle.
Mais je suis bien plus utile au niveau associatif, auprès de l'UNICEF. Et là, je vois concrètement ce que j'apporte et je pense que c'est là où je peux agir, où j'ai ce champ d'action possible.
Alors, plus léger, hein. Mathilde, demain, ce sera Diego Eglaoui, entrepreneur, cofondateur de l'agence Wear Influence et fiancé d'Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers. Si vous avez une question à lui poser, Iris, c'est maintenant, c'est la caméra de gauche ici qui s'allume, vous le voyez. Vous pouvez lui poser une question, Diego, il répondra demain.
Mais j'ai plein de questions pour toi, Diego. Alors, je me permets de te tutoyer, parce que du coup, je me dis, c'est un peu la famille des Miss, tout ça. Il paraît, Diego, qu'il est très, très difficile de vivre avec une ancienne Miss France. Donc, je voulais savoir si tu confirmais ces dires, parce que d'après mon mari, c'est vraiment un enfer. Apparemment, vous allez très prochainement vous marier. Peut-être qu'il est temps de reculer. Je te dis, c'est un conseil. Je plaisante. Bon, après, je sais que tu cartonnes partout dans le monde. Si jamais tu as besoin de me faire venir à Los Angeles, Dubaï, Pékin, où tu veux, écoute, n'hésite surtout pas. Tu peux demander mon numéro à Iris. Je t'embrasse et embrasse Iris au passage.
Ce sera fait. Merci beaucoup, Elodie. Réponse dès demain. Je rappelle qu'on vous retrouve à 21h10 sur M6 pour la grande soirée. Ce sera demain des 40 ans du Top 50 avec Jérôme Anthony, une péade d'artistes incroyable. Et puis, évidemment, toutes vos émissions d'Europe M6. On n'a pas le temps de toutes les citer. Le buzz ne fait que 26 minutes.
Et il y en a 2650. On va vraiment se marrer.
Merci, Mathilde. Le Buzz TV sera de retour demain avec Diego Eglaoui. Bonne journée à toutes et à tous. Et encore merci de votre fidélité.
Merci.